Merci beaucoup de l'invitation à poursuivre donc la série d'entretiens que nous menons depuis quelques années, donc saison 4, épisode 22. Comme le souligne à très juste titre Estelle, le titre de cet entretien, Le métier d'écrivain, est un titre qu'elles ont choisi de manière volontairement paradoxale, volontairement problématique. D'abord parce qu'on sait la faible professionnalisation de l'écriture, hein, Bernard Laher le soulignait récemment, en rappelant que l'écrivain est souvent le maillon faible dans la chaîne du livre. Hein, le fait d'entrer en écriture est rarement sanctionné, soit par un concours, soit par un salaire, toute marque souvent de la professionnalisation. L'autre paradoxe de ce titre, c'est le singulier, le métier d'écrivain, car encore une fois, comme le souligne Bernard Lahir, la plupart des écrivains, majoritairement, ont un double métier, une double existence. Mais chez Pierre Sanche, ce n'est pas le cas, et au lieu d'un double métier, on pourrait davantage parler d'un pluriel d'écriture. On aura l'occasion d'y revenir, Estelle en disait déjà un mot. Il y a des lieux d'intervention distincts dans son œuvre, des types d'écriture, avec un souci qui est presque expérimental, on y reviendra d'ailleurs. Il y a des adaptations pour la radio, le théâtre, la web-série, les fictions radiophoniques, mais aussi des chroniques pour des journaux, notamment pour le Matricule des Anges, qui se sont arrêtés récemment d'ailleurs, il y a à peu près un an. Alors je voudrais, comme première question, revenir sur le titre du livre de Bernard Lahir que j'évoquais, hein, le sous-titre de ce livre consacré à la condition d'écrivain, c'est « La double vie des écrivains ». J'en rappelle très rapidement le prétexte ou le propos. Il s'agissait pour Bernard Lahir de souligner que, par des nécessités qui sont des nécessités économiques, bien des écrivains ont une existence qui est une existence partagée, une existence divisée. Et ils ont la nécessité d'avoir un second métier qui leur garantisse une stabilité économique, au risque d'un tiraillement que l'on connaît bien, que l'on imagine. Ce n'est pas ton cas, hein, cette idée d'une division avec un second métier, car ta vie, Pierre, est pleinement occupée par l'écriture, mais par l'écriture dans de multiples formes, de multiples supports. Alors, est-ce que, première question pour entrer en matière, est-ce que cela relève d'une décision immédiate, quand tu es entré en écriture, de consacrer pleinement ta vie à l'écriture? Et à quel moment est-ce que cela a été possible pour toi? Ce qui me semble qu'au départ, ta vie oscillait en quelque sorte entre le désir d'écriture et la musique, une pratique de la musique, pratique pédagogique de la musique.
C'est une question de Laurent Demanz qui en contiennent 12, et les 12 contiennent 12 autres questions. Voilà, c'est un petit papier origami qui se déplie, je ne sais pas par quoi commencer. Peut-être par la fin, la question sur une décision qui aurait été prise de ne vivre que de l'écriture. En fait, c'est une décision comme beaucoup, comme souvent, à défaut, ou une contre-décision, un choix par élimination des choix contraires. J'étais pas sûr du tout de poursuivre, de pouvoir gagner ma vie par l'écriture. Il faut faire une distinction déjà qui est de gagner sa vie avec les livres et gagner sa vie avec l'écriture, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'était un pari par défaut aussi, parce que je ne pouvais pas faire grand chose d'autre, n'étant spécialisé dans aucune branche ni de quelques métiers que ce soit. J'ai vaguement fait pendant quelques temps le métier de professeur de musique, mais c'était déjà un petit peu une position, presque une imposture de ma part, parce que je n'étais pas vraiment formé pour, et quand il a fallu être formé pour, je suis parti. C'est-à-dire que quand les écoles dans lesquelles je travaillais demandaient des agréments, et lesquels agréments étaient conditionnés à l'obtention de diplômes par les professeurs, ou alors à la démonstration de diplômes et d'un savoir-faire réel et établi, à ce moment-là, j'ai pris la fuite. C'était d'ailleurs, ça coïncidait d'ailleurs au moment où j'ai pu publier le premier livre, en 2000. Et j'ai fait le pari, effectivement, de démissionner et de vivre de l'écriture, de vivre assez chichement, mais j'étais habitué à vivre assez chichement, de peu de choses. Et à ce moment-là, la chance m'a souri parce qu'on m'a proposé d'écrire des fictions radiophoniques pratiquement dans ce même temps. Et donc j'ai pu accepter cette proposition qui pour moi était au départ une proposition provisoire. Je ne m'attendais pas du tout à continuer à en faire et à en faire des dizaines et des dizaines et à continuer et à aimer ça. Je l'ai accepté aussi par goût et par plaisir de faire quelque chose, mais je ne m'attendais pas à ce que ça se multiplie d'autant. Et je ne m'attendais pas non plus à en faire un gagne-pain durable, en tout cas. J'ai accepté, connaissant un tout petit peu les fictions radiophoniques, mais ne sachant pas du tout en faire. Et j'ai appris sur le tas, c'était un travail complètement nouveau pour moi, d'autant plus que dans le peu de romans publiés à ce moment-là, surtout un et puis quelques brouillons, je m'interdis pour des raisons techniques les dialogues, enfin je les évite, parce qu'ils me posent vraiment un vrai problème, et plutôt que de résoudre le problème, je l'ai éliminé par l'acheté, et que les fictions radiophoniques, au contraire, ne reposent pratiquement que sur du dialogue. Donc, il a fallu apprendre à dialoguer et à trouver cette forme d'écriture très particulière qui était l'écriture de fiction radio, ce qui était pour moi au départ une sorte de petite souffrance, parce que c'est toujours un peu difficile de renoncer à ce qui nous semble être un travail le travail qu'il faut, je ne dis pas de qualité, mais le travail auquel on s'attend, c'est-à-dire une écriture très travaillée, très construite, avec éventuellement des parenthèses, avec un enrichissement à l'intérieur de la phrase, lesquels enrichissements sont beaucoup plus difficiles à l'oral quand on propose une fiction radiophonique. Donc il faut au contraire accepter une simplification, un naturalisme, tout en jouant entre, en flottant dans un entre-deux, dans une zone intermédiaire entre un naturalisme de la fiction radio qui est de l'ordre du dialogue, comme au théâtre ou au cinéma d'ailleurs, et puis une vraie entre guillemets, hein, c'est étonnant que je dise vrai, mais disons une écriture livresque qui est, elle, au contraire, prend plaisir à, ou même considère comme une nécessité de s'éloigner de ce vrai ou faux ou artificiel ou illusoire naturalisme.
Tu évoques immédiatement la question des fictions radiophoniques. Je voudrais pour le public rappeler à quel point ta production de fiction radiophonique est une production qui est ample, qui est généreuse. Tu as diffusé à peu près une soixantaine de fictions radiophoniques, à la fois sur France Culture et sur France Inter, et tu as été plusieurs fois primé pour cela. Donc c'est une activité qui est une activité... Alors, il faudra réfléchir sur cette topographie-là, en parallèle, en marge de ta publication de livres. Mais... avant de continuer sur les poétiques distinctes, les modes d'écriture distincts entre fiction radiophonique et écriture d'un livre publié le plus souvent chez Vertical, je voudrais en revenir un petit peu en amont dans ce que tu disais, en te demandant si, même si tu as appris au fur et à mesure les contraintes spécifiques de la radio, des fictions radiophoniques, si tu étais un auditeur de fictions radiophoniques, si cela avait fait partie de ton bildungsroman d'écrivain que d'écouter, que d'accompagner les fictions radiophoniques lors de tes premières années. Et puis aussi, comment s'est articulé selon toi ces premières fictions radiophoniques, ce fait d'être contacté pour fictions radiophoniques avec la publication de tes premiers livres. Si j'essaye de remettre la chronologie, ton premier livre est publié en 2000 et les premières fictions radiophoniques, c'est en 2003, si je suis bien. Donc il y a eu ce moment où ton œuvre a commencé à s'installer, et donc un premier geste qui est quand même un geste à la fois de repérage, celui qui te contacte, et en même temps de confiance, puisque c'était une œuvre encore naissante, encore vraiment en devenir. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur la chronologie. D'abord sur... Est-ce que tu as été un auditeur? Et puis ensuite, comment ça s'est articulé à l'émergence de ton œuvre?
Oui, parce que dans... Je ne sais pas si vous avez eu le film d'Alain René, on connaît la chanson, un des personnages principaux écrit des fictions radiophoniques. Et le gag récurrent, c'est de se présenter comme auteur de fictions radiophoniques et d'obtenir un silence médusé des autres personnages. D'autant plus drôle que parfois les acteurs qui jouent dans ce film sont des habitués de Radio France et jouent beaucoup dans les fictions radiophoniques. Donc c'est un jeu dans le jeu, une espèce d'automoquerie. Tout ça pour dire qu'en général, à mon tour, quand je dis que j'écris des fictions radiophoniques, on a l'impression que je reviens des années 50, et que, voire 30 peut-être, et que ces fictions, on s'étonne encore de l'existence de ces fictions, alors que c'est une politique énorme, c'est un budget énorme de Radio France, c'est l'un des plus grands, c'est je crois le premier employeur de comédiens, en tout cas institutionnels, en France, et c'est une énorme machine qui s'enraye un peu, mais qui existe toujours. Et de fait, j'étais un petit peu auditeur de fiction radiophonique. Alors, j'étais pas, je ne les connaissais pas comme je les connais maintenant. Je ne connaissais pas tous les créneaux, etc. Mais je me souviens, quand on m'a proposé d'écrire pour la radio, je me souvenais d'adaptations de feuilletons, de Sherlock Holmes, par exemple, qui m'avait vraiment accompagné des déménagements et des travaux manuels, parce que c'est vraiment dans ces situations-là qu'on écoute le mieux ce genre de fiction. Moi, dans mon souvenir, pour ce qui est de la chronologie, ça allait un peu plus vite, mais peut-être qu'effectivement, officiellement, les premières fictions sont de 2003, mais dans mon souvenir, c'est très très tôt, c'est-à-dire que on est venu me contacter alors que je présentais en librairie mon premier livre. En l'occurrence, Céline Geoffroy, qui est toujours conseillère littéraire à la radio, travaillait à l'époque sous la direction de Bernard Comand, qui avait pris la direction de la fiction, et pour essayer de renouveler un petit peu leur fond, parce qu'ils travaillaient en général depuis très longtemps avec les mêmes auteurs, ils voulaient avoir une politique d'ouverture vers d'autres auteurs, et donc aller à la pêche comme ça, chercher dans les librairies des auteurs sans le sou pour leur proposer des choses, et voilà, j'ai accepté. Puis je pense qu'il y a eu beaucoup d'auteurs à ce moment-là qui ont été contactés, mais dans mon souvenir, ça s'est fait très très vite. Je pense que dans l'année, j'ai écrit quelques petites choses qui ont été diffusées. Alors le temps de fabrication sont toujours très très longs, donc peut-être qu'effectivement c'est 2001-2002, mais 2003 ça me paraît long. C'est surtout que je me demande de quoi j'aurais vécu financièrement d'ici là. Alors peut-être d'autres choses innommables ici, mais non, je ne pense pas. Après, c'est un travail en parallèle. Vous parlez de tiraillement tout à l'heure. Ça peut être un tiraillement, mais ça peut être aussi un enrichissement. C'est aussi une école d'écriture, même si ce n'est pas une école d'écriture de roman, l'écriture de la fiction radiophonique, mais se confronter à des réalisateurs, se confronter à des comédiens, se confronter à des conseillers littéraires, se confronter à l'audition, se confronter aux résultats aussi, qui peut être catastrophique par rapport à ce qu'on a écrit, oblige à revenir sur certains fondamentaux qui sont pour tout le monde très bien connus, mais les fondamentaux de l'écriture théâtrale, par exemple l'exposition, le dialogue, la mise en scène, l'audition, la compréhension, et puis toujours, encore une fois, cet équilibre entre, quand on écrit une fiction radiophonique, notamment par exemple pour France Inter, qui exigeait des fictions radiophoniques encore plus grand public, parce que c'était diffusé à 2h du matin, soi-disant pour de fantasmatiques camionneurs insomniaques. Je ne sais pas, c'est un peu comme la ménagère de 50 ans, on ne sait pas s'ils existent, mais c'est une figure pour lesquelles on écrit. Il y a une nécessité d'écrire à la fois quelque chose de très compréhensible, et avec cette obligation qu'on se fait, que ce soit des dialogues explicatifs, compréhensibles, des choses très triviales et des dialogues purement d'information. Hein, je m'appelle un tel, je fais telle chose, et je suis tel personnage dans cette fiction. Mais que ça reste un jeu avec le langage, que ça reste un plaisir de la langue, que la langue ne soit pas uniquement un véhicule ou un outil, que ça reste... qu'on continue de jouer avec les mots, qu'on continue de jouer avec les sonorités, avec les incompréhensions. Alors on trouve des ruses d'écriture pour transformer ces dialogues presque de sitcom. Dans le cas de France Inter, hein, France Culture et France Musique c'est autre chose, mais dans le cas de France Inter, on nous demandait presque du sitcom, quelque chose. Il fallait pas du tout adapter Marguerite Duras ou Thomas Bernard, il fallait vraiment faire quelque chose qui saisisse l'auditeur tout de suite. Alors c'est des contraintes, mais qui me plaisaient. Je dis plaisaient parce que ça, c'est terminé. Et ce qui me plaisait aussi, c'était quand même de maintenir, je ne dis pas une qualité, parce que ce n'est pas le mot, mais un plaisir de la langue, et que la langue soit aussi, non pas une fin, mais la chose en soi.
Alors tu... Tu évoquais à l'instant, mais tu évoquais aussi dans un article, un récent numéro de littérature, ces spécificités de l'écriture de la fiction radiophonique. Alors tu l'as évoqué à nouveau, la question de la voix narrative, de l'oralité de la phrase, la question de la description, très importante dans la fiction narrative aussi. Il me semble qu'il y a une autre différence, tu l'évoques il y a un instant, entre l'écriture d'un récit et la fiction radiophonique, c'est que la fiction radiophonique t'enjoint à t'intégrer dans une collectivité de manière temporaire. Alors, ce sont les acteurs, les réalisateurs, les bruiteurs. Et immédiatement, on se rend compte que l'activité d'écriture cesse d'être pensée, sans doute de manière idéale, hein, comme geste solitaire, pour être un objet de négociation, de discussion, d'apprentissage aussi par un frottement à autrui. Est-ce que cette intégration ou cette injonction à être dans le contact d'autrui, dans la création de la fiction radiophonique, a été pour toi quelque chose de plaisant, quelque chose qui a suscité des inflexions de ta propre écriture? Tu parlais d'école, hein, d'école d'écriture. Ou est-ce qu'au contraire, tu as pu avoir le sentiment d'une dépossession, d'un détournement de ton propre travail?
L'écriture des fictions, dans un premier temps, se fait de façon aussi solitaire ou presque que le livre, à ceci près qu'il y a parfois une commande à l'origine, mais la commande peut se faire en un seul coup de téléphone ou maintenant un courriel. Enfin, le contact est assez minimaliste. Par contre, il m'est arrivé d'aller travailler sur place à la maison de la radio. À l'étape de la commande, à l'étape de la mise en place de fiction et puis de réflexion sur quel synopsis, quel livre on allait adapter, quel délai on allait choisir, etc. Et de prendre énormément de plaisir à aller à la maison de la radio parce que l'accueil qu'on me faisait dans cette maison avec les bureaux, avec les gens qui travaillaient vraiment pour de bon, calmait mon angoisse, une angoisse pas seulement de solitude, mais une angoisse de solitude financière. C'est-à-dire que quand on est tout seul et qu'on publie des livres qui se vendent, comme vous le savez, et qu'on n'a pas de revenus, l'angoisse peut venir assez régulièrement, elle revient toujours. Et on se dit de façon complètement naïve et stupide que être accueilli dans une institution comme ça est quelque chose de rassurant, comme si par la matérialité même des meubles, de cette maison solide, du fait qu'on parle de délais, qu'on nous fait des contrats, qu'on nomme tel réalisateur pressenti, qu'on croise des comédiens, qu'on nous montre des studios, cette matérialité même est rassurante parce qu'on se dit. Un jour, ce contrat-là va être envoyé à la SACD et je vais toucher 1 000 euros et ça va être formidable. Voilà, c'est psychologiquement naïf, mais c'était parfois salutaire à des moments où bon, maintenant je suis un peu plus tranquille parce que les commandes se succèdent et puis j'ai d'autres revenus, mais l'angoisse financière pouvait revenir très régulièrement. Et donc là, pas seulement le fait de toucher de l'argent de la SACD, mais le fait d'aller à la radio pouvait être rassurant parce que j'étais aussi reconnu comme un travailleur, comme un salarié, presque un salarié, disons un salarié extérieur, mais presque un salarié d'une institution qui, elle, était solide et qui n'était pas, ce n'était pas uniquement des phrases écrites sur du vent ou sur une feuille de papier pour le tiroir et pour le brouillon. Et donc, on sait très bien que ça ne rime à rien, ça ne rapporte rien, que c'est une part du travail très évanescente et très, très peu palpable. Par contre, dans un troisième temps, c'est-à-dire que voilà, quand on écrit, la commande peut donner lieu à quelques contacts, l'écriture est plutôt solitaire. Après, dans un troisième temps, il y a la réalisation, et parfois la réalisation donne lieu à des rencontres. On peut ou ne pas être invité, convié aux enregistrements. Ces enregistrements peuvent ou ne pas peuvent se passer bien ou mal, mais ça peut être très souvent, ça a été très souvent, et surtout dans les enregistrements publics. Pour moi, un moment de pur plaisir complètement égoïste, parce que bon, le travail était fait, toute l'angoisse de la mise en scène, de la réalisation, du rapport au public, de l'exécution de cette chose était reportée sur les autres, les ingénieurs du son, les réalisateurs ou réalisatrices, les comédiens, et moi je n'étais là que pour entendre des comédiens. Tout d'un coup, donner chair et donner vraiment une vraie réalité à des mots qui jusqu'à présent étaient écrits dans la solitude, et je me donnais aussi l'illusion, c'est le cas pour les enregistrements publics, de faire partie d'une petite troupe, parce que la petite troupe se constitue pendant une semaine, et pendant une semaine il y a des répétitions, et voilà, la petite troupe de théâtre vit, et l'ambiance est en général assez agréable, et il y a une sorte de fraternité qui naît d'un seul coup, et qui est très déceptive par contre le dernier soir, quand tout le monde s'en va, et qu'on se rend compte que ça n'aura pas de lendemain, et qu'on perd les contacts. Mais voilà, pendant un moment, ce passage-là n'est que du... en général, que du plaisir pour l'auteur.
Dans la description que tu donnes, tu fais de ce moment de la création un moment où toi-même, tu as le statut d'auditeur ou de spectateur. C'est-à-dire qu'un moment où tu as rendu la fiction radiophonique au réalisateur, tu n'interviens plus jamais, tu ne discutes plus jamais. Est-ce que c'est un espace négocié, ou est-ce que c'est un moment où tu as livré ton texte et le réalisateur l'accommode, le prépare, oui, selon ce...
Oui, alors c'est toujours très... je parle peut-être de façon très tranchée, mais tout est toujours ambivalent et nuancé, y compris pour l'écriture de la fiction elle-même. Quand je parle de dialogues purement... qui ne sont que de la pure information, ou un dialogue ou une écriture de radiophonique qui est plus simple ou plus... faut relativiser, parce que, ne serait-ce que pour France Culture elle-même, les créneaux changent, donc les exigences changent. Atelier Fiction n'est pas ce qui s'appelle maintenant Samedi Noir. Vie Moderne n'est pas le feuilleton. Le feuilleton Vie Moderne, qui dure 7 minutes, a une exigence... alors là, pour le coup, on est presque dans le sitcom. Par contre, le feuilleton du soir, qui est en général une adaptation d'une œuvre littéraire, bon, vous avez pu entendre l'adaptation des démons de Dostoïevski par Bertina et Roé il n'y a pas très longtemps. Là, au contraire, on est dans une écriture, on est dans la prose de Dostoïevski, traduite par Markovitch. Donc, vous avez à peu près toutes ces nuances-là, et le dimanche, vous pouvez avoir ce dont je parlais tout à l'heure, effectivement, Duras, Thomas Bernhard, voilà. De la littérature nue, dite comme ça, sans exigence au préalable de réduction ou à minimum quelconque.
Et sans intervention de ta part, au moment de la création.
Alors, pour les interventions, c'est pareil, je dirais que ça dépend. Certains textes ont été donnés et pour moi disparaissent complètement, je n'ai plus de nouvelles, ils pourraient être brûlés, et en fait... je me rends compte au bout d'un moment que la fiction a été acceptée, achetée, réalisée et peut-être même parfois diffusée. Je ne suis au courant de rien. Dans l'autre sens, à l'autre opposé de cette situation-là, ça m'est quand même arrivé une ou deux fois, il y a des réalisateurs que je finis quand même par connaître qui m'appellent, avec qui on discute. Alors, très rarement du casting, mais ça arrivait. En général, on me demande une approbation et je la donne. Hein. Plus souvent des retouches sur d'écriture, mais ça, normalement, ça se fait au stade des conseillers littéraires ou des conseillères littéraires, parce qu'en général, ce sont des femmes qui font un travail en fait éditorial comme un éditeur. Hein. À ceci près que les contraintes sont des contraintes aussi d'oreille, alors que l'éditeur travaille aussi pour le regard. Mais le réalisateur peut apporter, après cette première lecture, sa deuxième lecture, qui est une lecture de réalisateur, et qui va demander quelques petites retouches, des coupes, une modification de dialogue, ou un travail pour enlever quelques ambiguïtés, ou pour enlever quelques paradoxes, ou quelques incertitudes quant à la psychologie du personnage, par exemple, ce à quoi on pense assez difficilement quand on est auteur. Et parfois même les comédiens eux-mêmes, quand on est au moment de l'enregistrement, ça peut arriver aussi qu'ils aient leur propre correction, parce que c'est là qu'on se rend compte que ce qu'on a écrit sur le papier, tout d'un coup, est pris en charge par quelqu'un qui lui prend avec énormément de sérieux ce qui pour nous était parfois des répliques dites, voilà, écrites comme ça, je ne dis pas sans sérieux, mais avec moins d'un sentiment de responsabilité, parce que là, le comédien doit donner chair, doit donner vraiment sa voix à ce qui est un personnage, finalement, même si parfois la notion de personnage disparaît. Alors parfois, les comédiens peuvent être très attentifs à une nuance, à une virgule, à un son de mot. Je me souviens d'un comédien, par exemple, qui m'avait proposé de rajouter quelques « et » à la place de « ou » parce que physiquement, c'était difficile. Voilà. Alors parfois, on oublie ces choses-là, mais c'est très intéressant de se confronter avec un comédien qui nous dit que voilà, dans l'articulation, dans le son, pour des choses très concrètes, une phrase ne convient pas. Ce qui a fait le génie de Molière et de Shakespeare, qui eux étaient comédiens, qui se posaient déjà ces problèmes-là. Donc tout ça pour dire que mes interventions, elles sont à la demande des réalisateurs et des autres, et puis elles peuvent, ça peut être une réunion aussi dans un café, et passer une heure à relire un texte, avec des petites retouches, ou un petit coup de fil, ou rien du tout.
Voilà. J'en viens à une dernière question peut-être sur les fictions radiophoniques, parce qu'on sent bien quand même le plaisir que tu as dans ces discussions, ces ajustements, de ces petites retouches. J'en viens à une dernière question pour essayer de repenser l'espace de ton œuvre. Je parlais tout à l'heure de « en marge » ou « en lisière », en parallèle de la publication de tes livres chez Vertical. J'aimerais bien savoir comment tu penses ou comment tu organises ton œuvre. Pour le dire plus simplement, ton lecteur peut bien sûr voir des passerelles, peut bien sûr voir des obsessions qui circulent de tes fictions radiophoniques à tes livres, peut voir des figures aussi qui, par contrebande, circulent aussi. Mais toi, dans ton travail, ou même dans la pensée que tu peux développer du livre, de la littérature, est-ce que tu vas cloisonner de manière très nette les espaces entre les fictions radiophoniques et les livres, même dans le temps de travail? Est-ce que tu vas les hiérarchiser, ou est-ce que c'est selon toi la même œuvre qui se déploie selon des modalités distinctes, avec des protocoles ou des contraintes différents? Est-ce qu'il y a, pour en faire encore plus bref, est-ce qu'il y a pour toi une différence de nature entre ces types d'écriture, ou est-ce qu'il y a un continuum nuancé dans lequel ce serait ton œuvre ou ton écriture qui trouve à s'incarner de manière spécifique à chaque fois?
Bigre.
Alors, on pourrait le faire différemment.
Non, je vais essayer de répondre. Parce que j'ai envie de dire que c'est entre la cloison et la continuité, mais ça ne va pas vraiment vous satisfaire. Je pense que c'est un peu compliqué. Très concrètement, comme je le rappelais tout à l'heure, ce qui concerne les fictions radio, je ne m'attendais pas du tout à en écrire autant et à en faire un gagne-pain et à ce que ça prenne cette importance. Je pensais vraiment en faire deux ou trois et puis de passer à autre chose. Il se trouve que pour des raisons X ou Y qui m'échappent, j'en ai fait, je continue d'en faire et j'en propose. Mon premier réflexe, c'était sans doute de cloisonner un peu, parce que le mode de travail est très différent, l'approche même matérielle, très concrète de l'écriture est différente. Pour le dire tout simplement, j'écris tout ce qui concerne les livres ou les articles, ou je les écris à la main, et les fictions, pour des questions de rythme, je les écris, je les tape sur le clavier. Ça n'a l'air de rien, mais au départ, c'était une exigence concrète, matérielle. C'était plus facile pour moi Enfin, il y avait une adéquation plus évidente, plus simple et plus juste, me semblait-il, entre l'écriture au clavier et la fiction radio que l'écriture à la main, à tort ou à raison. Mais du coup, cette séparation, enfin, cette façon de faire pour la radio est devenu une sorte de marqueur entre le travail pour le livre et le travail pour la radio, ou pour les projets d'opéra, par exemple, ou pour les différents projets d'écriture que je peux avoir. Ça ne veut pas dire qu'il y ait une hiérarchisation, une hiérarchie entre un travail noble, qui serait le travail pour le livre, et un travail ignoble, ou facile, ou plus mécanique, qui serait le travail pour la radio. C'est juste, au départ, une distinction matérielle de fait, et une question de rythme aussi. De rythme de pensée, de rythme d'écriture, et donc du coup de rythme de langue, de rythme d'approche de la grammaire. Et voilà. C'est quelque chose de très concret, mais qui suppose aussi différents temps dans la journée. C'est plutôt de l'écriture à la main le matin, et puis l'écriture pour la radio de l'après-midi. Alors, peut-être qu'au bout d'un moment aussi, on décide de choses très concrètes, qui sont des détails triviaux, mais qu'on s'y plie un petit peu comme dans les cérémonies où on On nous oblige à faire des gestes apparemment anodins et triviaux. On se lève, on s'assoit, on porte des couronnes, on s'embrasse, on fait je ne sais quel geste selon je ne sais quelle cérémonie. Ces gestes-là, absolument triviaux, nous mettent dans des situations mentales en accord avec le but de la cérémonie ou sa signification quelconque. Et là, c'est peut-être un petit peu pareil. Peut-être que le fait d'écrire à la main et le fait d'écrire au clavier marque une distinction, mais que je peux encore mal définir. En tout cas, c'est pas une distinction, encore une fois, c'est pas une hiérarchie de classe ou de qualité, pas du tout. C'est plutôt une hiérarchie plutôt une distinction de genre. Voilà. Je sais plus, c'était la question.
Ben, c'est exactement ça la question. Non pas hiérarchie de qualité, mais une distinction de genre. Donc, c'est vraiment une spécificité des modes d'écriture.
Alors, il arrivait, excuse-moi, que des ponts se fassent très concrètement aussi. Ça arrivait, en tout cas, au moins pour un livre qui s'appelle Sort l'assassin entre le spectre, qui se présente comme un long monologue, qui est vraiment né de la rencontre avec un comédien, Thibaut de Montalembert, et qui s'est écrit presque comme une fiction radiophonique, en tout cas comme un texte à l'oral, et qui a été lu par Thibaut de Montalembert, il me l'a lu, on l'a enregistré, avant que je le réécrive, que je le retouche, que je le corrige et qu'il soit publié. Donc c'est quelque chose qui a été cuit à l'oral, d'une certaine façon, qui a été cuit par le comédien avant d'être imprimé.
Et ça, c'est un impact, cette circulation d'un texte créé pour une fiction radiophonique? Ouais.
Voilà. Sans doute. Ben, c'était pas créé pour une fiction radiophonique, mais c'était pensé tout de suite à l'oral, pour un comédien, pour lui, parce qu'il m'avait demandé de lui écrire quelque chose. Bon, finalement, ça n'a pas donné lieu à une pièce, mais c'est vraiment lui qui l'a porté, c'est lui qui l'a d'une certaine façon commandé ou inspiré. C'était pas une commande concrète. Hein. Et il a aussi été très généreux, il a eu la grande générosité de prendre un après-midi et de lire le texte pendant 2 heures, 2 heures et demie. Je l'écoutais, je prenais des notes, et chaque fois que je m'endormais, je savais que c'était pas bon.
Je voudrais en venir pour un deuxième temps de cette discussion à la question des résidences, puisque c'était aussi un des enjeux de la vie d'écrivain, de ses modes d'existence aujourd'hui. Alors la question des résidences, on le sait, c'est à l'origine aussi d'incarner un idéal de retraite hein, qui permette à l'artiste, au savant ou au lettré, dans les résidences d'autrefois, de se concentrer sur son œuvre sans avoir à se soucier de préoccupations plus matérielles. Cette idée de retraite, de vie hors du monde, elle est largement transformée aujourd'hui hein, dans la pratique concrète de ce que sont les résidences. Ça serait peut-être la première question, hein, puisque tu as eu l'occasion à plusieurs reprises d'être dans une résidence ou d'avoir une résidence, on ne peut pas discuter aussi des termes. Hein. La résidence, on pourrait la décrire également comme une socialité contrainte. C'est un changement d'habitude, un déplacement de lieu, un déplacement aussi de rythme, une façon d'occuper la journée. Il y a quelque chose dans la résidence, évidemment, comme un temps qui est accordé, mais aussi un dérangement, un déplacement. Est-ce que ce dérangement ou ce déplacement sont pour toi ou ont été pour toi heureux? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un effet d'impulsion que représente la résidence? Ou est-ce qu'au contraire, ils ont été pour toi à certains moments plus difficiles en ce qu'ils venaient interrompre un temps long d'écriture, un projet que tu avais déjà en cours et que tu as dû mettre un peu sous le boisseau?
Alors, je pense que j'ai de la chance parce qu'à chaque fois ça s'est bien passé, mais c'est pas toujours le cas. Alors, je parle pas des résidences Île-de-France qu'on va aborder, mais on peut trouver ici ou là dans la littérature, dans des articles ou des petits textes où les auteurs font part de leur expérience de résidence calamiteuse, et Dieu sait s'il y en a. La chambre est mal chauffée, on s'ennuie, c'est dans un type d'être paumé, les organisateurs sont désorganisés, c'est ni fait ni à faire. Donc il y a de nombreuses résidences aussi calamiteuses, bon, ça m'est jamais arrivé, mais je sais que ça existe, donc cette parenthèse fermée, je dis que si la résidence est aussi un dérangement, un dévoiement, c'est bienvenu et c'est tant mieux, parce que le détour, le dévoiement, l'écart, c'est aussi d'une certaine façon le moteur de la littérature, c'est aussi une définition de la littérature ou de l'écriture, c'est quand même quitter la voie droite. Si c'est pour, en tout cas pour ma part, si c'est pour appeler un chat, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est plutôt de l'ordre du détour, du déplacement, du dévoiement, que ce soit aussi sous la forme de masque, de déguisement, de mensonge, de fiction en général. et de tout ce qu'on peut trouver comme métaphore autour du sujet de l'auto, justement. Donc, pour moi, ça peut aussi aller de soi, même si c'est un dérangement, même si matériellement ou concrètement, ça peut apporter des inconvénients. Quoique ça apporte en général beaucoup d'avantages, qui est la bourse. C'est plutôt bienvenu, et il faut que ce soit aussi accepté, parce qu'on ne peut pas non plus rester fidèle à soi ou fidèle à son écriture. Ça serait vraiment une sorte de tautologie mortelle. Ce qui peut être aussi le bienvenu, c'est la confrontation ou l'ouverture à d'autres regards, d'autres personnes, des interlocuteurs, d'autres lieux, et à la commande, quand même quelque chose qui peut être potentiellement merveilleux, la commande avec ses contraintes. Là, très concrètement, les dernières résidences en cours que j'ai faites au patronage de l'Île-de-France, c'est une résidence dans un lycée. Lequel lycée propose un BTS de culture audiovisuelle et artistique. Et j'ai travaillé pendant presque un an avec des élèves spécialisés en première année de son. Donc c'est des gens qui se destinent à être ingénieurs du son. Et on a écrit avec eux, ils sont 12, des fictions radiophoniques qui me permettaient de faire un pont. Enfin, la radio permettait de faire un pont entre leur culture, qui était une culture très musicale et technique, enfin, une culture d'ingénieurs du son extraordinaire, et la littérature qui connaissait peut-être un peu moins, la critique de l'écriture qui connaissait moins, mais à travers l'écriture radiophonique et à travers des rencontres avec un comédien, encore une fois Thibaut de Montalembert, une bruiteuse, une réalisatrice, un ingénieur du son, et Céline Geoffroy, dont je parlais tout à l'heure, qui a parlé aussi de l'aspect un peu plus administratif ou concret, des grilles de programmation, de commandes, de la paye, etc., etc. Donc c'était, je suppose, très agréable pour eux, très intéressant pour eux, toutes ces rencontres. Et pour moi, le retour que j'ai eu, les questions, les interrogations, les commentaires et les questions qui se sont posées à eux-mêmes au moment de l'écriture d'une fiction radio étaient vraiment passionnantes, parce que je les ai vus au bout d'un moment se poser les questions que tout le monde se pose, c'est-à-dire comment créer un personnage, comment rendre explicite une situation, comment justifier une réplique, comment éliminer, faire de deux personnages un seul, en fait des questions très concrètes d'écriture qui sont vieilles comme Aristophane.
Précisément, puisque tu évoques cette résidence Île-de-France, ce qui est palpable dans ta réponse, c'est que il y a dans cette résidence quelque chose comme une intervention locale, comme un espace qui est un espace de rencontre. On n'est pas du tout dans l'imaginaire de la résidence comme espace de retrait, mais bien davantage comme acte à la fois social, culturel, et de mise à disposition, de mise à la rencontre de la littérature. Est-ce que cette inflexion-là qu'il y a dans les résidences, c'est une inflexion qui te paraît très juste, ou est-ce qu'au contraire, tu pourrais y voir un dévoiement? Je sais que dans un colloque récent sur les résidences, certains pouvaient s'interroger sur est-ce que c'est aussi la fonction de l'écrivain d'être dans ce rapport-là, ou est-ce qu'on pourrait imaginer davantage un médiateur culturel?
Oui, alors encore une fois, je ne peux parler que de mes expériences et toutes sont différentes, et il peut y avoir aussi des cas de résidences calamiteuses ou ratées ou hors sujet, pour lesquels on prend l'écrivain pour un médiateur culturel, voire pour un prof de substitution, voire pour un agent de communication de telle ou telle région ou de telle ou telle ville, à qui on demande de faire des panneaux faisant l'éloge du prieuré du 15e siècle, des choses comme ça. Et ça, ce dévoiement, il peut être toujours là. On s'en rend compte parfois trop tard et le contrat est signé et la résidence va mal se passer. Parfois, assez tôt, on peut deviner de loin ce genre de piège, mais de fait, ça arrive. Pour les résidences qui se passent bien, c'est quand c'est assez réfléchi, quand les gens qui gèrent ces résidences connaissent la littérature et la vie de l'écrivain. C'est-à-dire, ils travaillent pour la littérature, ils travaillent pas pour faire de la publicité pour le lycée Jacques Prévert, par exemple. C'est pas du tout le sujet, c'est pas vraiment pour que quelque chose de cet ordre-là se passe. Et en général, on dit qu'on consacre 30% de son temps à la résidence et 70% de son temps, parce que c'est quand même une bourse d'écriture, la résidence, à son écriture. Alors c'est un terme abstrait, mais qui, dans les faits, quand même doit se traduire par un véritable aussi, travail d'écriture qui empêcherait ce genre de dévoiement, pour le coup, pas de l'écrivain, mais de la résidence, quoi, qui serait vraiment un outil promotionnel. Mais je sais que ça existe, moi, ça, pour l'instant, ça m'est jamais arrivé, même pour la résidence en apesanteur, qui était plutôt amusante.
Peut-être dernière question sur la résidence. Dans ces usages culturels de la résidence, on a pu souligner récemment qu'il y avait un véritable changement de paradigme, c'est-à-dire que l'écrivain n'était pas seulement invité pour réaliser une œuvre, son œuvre, mais pour être aussi au contact d'un public. Alors, il y a quelque chose qui relève d'une spectacularisation aussi de l'écrivain, sans doute dénoncé par Camille de Toledo, puisqu'on l'évoquait. C'est un travail qui consiste, dans la résidence, à rapprocher l'écrivain du public en mettant en scène sa fabrique, son atelier. On passerait alors de la résidence comme... biais ou médiation pour accomplir une œuvre à la résidence comme mise en scène d'une fabrique, mise en scène d'un atelier. Et dans ce cas-là, dans ce cadre-là, les résidences sont souvent articulées à des blogs, à des journaux d'écriture, à des lectures régulières. Est-ce que cela a déjà été le cas pour toi, ce déplacement de paradigme qui montre une écriture en cours, qui, voire, met en scène cette écriture en cours?
Pas vraiment, non. Mais c'est sûr qu'il y a une demande implicite ou explicite d'un rendu. Alors c'est un peu comme le camionneur de tout à l'heure. Là, c'est une espèce de chose fantasmatique. On ne sait pas trop sous quelle forme ça va exister, mais il faut qu'il y ait un rendu au bout d'un moment. Ce qui est tout à fait normal, d'ailleurs, parce qu'il y a quand même des commanditaires, quand même de l'argent. Donc il faut aussi que les choses soient visibles. Alors cette visibilité-là, il faut trouver un équilibre entre une visibilité qui soit naturelle, qui aille de soi, parce que ces résidences, elles ne sont pas, même si elles sont faites pour l'écrivain comme une bourse d'écriture, elles sont aussi faites pour que les choses circulent, pour que quelque chose soit rendu public, comme on disait tout à l'heure, pour que les choses soient collectives d'une façon ou d'une autre, à une échelle ou à une autre échelle. Donc il faut... ce n'est pas uniquement c'est pas une bourse du CNL, c'est pas du tout la même chose, hein, même si finalement la bourse du CNL se termine par la publication d'un livre. Mais il faut trouver cet équilibre entre cette publication saine et puis une mise en scène qui serait pour le coup publicitaire ou intempestive, ou qui n'aurait lieu que de satisfaire des commanditaires tiers qui chacun veut promouvoir, qui sont sa ville, qui sa région, qui sont je ne sais quoi. Mais ça, c'est très difficile, et je pense que, encore une fois, ça se fait au coup par coup. Et les résidences sont toujours très concrètement très différentes les unes des autres. Je pense que c'est vraiment une des caractéristiques, notamment par exemple des résidences Île-de-France. On le dit souvent quand on en parle, c'est que bon, j'en ai fait deux par exemple. La résidence que j'ai pu faire à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, était vraiment complètement différente. Alors, pour le coup, ressemblait d'ailleurs à une résidence dans un cloître, parce que j'étais vraiment enfermé, volontairement, mais dans une salle de visionnage. J'ai passé plusieurs mois à visionner les films muets et à travailler sur ces films muets, et avec des contacts... d'ailleurs, pour ma part, peut-être un peu décevant, un peu rare avec les gens de Milan, même s'il y en a eu. Et là, la résidence au lycée Jacques Prévert était complètement différente. Donc les expériences sont très différentes. Et c'est vrai que le moment du rendu, encore une fois, de la production d'un résultat est toujours délicat. Ça peut être parfois très naturel et très simple. Par exemple, dans le cas de la résidence au lycée Jacques Prévert, nous avons écrit une fiction radiophonique. La radio est d'accord a priori pour les diffuser si elles sont de qualité. Donc là, c'est aller jusqu'au bout d'un processus et ça fait sens avec ce qu'on est en train de faire. Diffuser une fiction radio, c'est normal. C'est vrai qu'écrire un blog pour rendre compte, c'est peut-être moins naturel et moins évident. Pour moi, d'ailleurs, c'est moins évident. Après, je pense que c'est aussi de bonne guerre, d'une certaine façon. On est aussi là pour... je ne sais pas, pour communiquer quand même quelques petites choses. Dans d'autres cas, moi, j'ai jamais eu cette malchance, mais il peut y avoir aussi des cas où le rendu final est complètement artificiel et finalement déçoit tout le monde, y compris le public.
Alors, je reviens peut-être à une dernière question avant de laisser la parole au public. Dernière question dans laquelle je vais revenir très brièvement sur le livre de Bernard Lahire. Alors, dans son essai, qui étudie donc les conditions économiques de vie des écrivains, il fait l'hypothèse, ou il aimerait qu'on l'étudie, les liens étroits entre ces conditions économiques d'écriture et des formes, des formats, des thèmes. C'est-à-dire qu'il aimerait que la littérature, les critiques littéraires, puissent, sans réductionnisme sociologique, essayer de voir les croisements, les imprégnations. Et il prend l'exemple très fameux du 19e siècle, en montrant que le 19e siècle est marqué, en rappelant que le 19e siècle est marqué par l'essor du journalisme et les formes feuilletonnantes de Dumas à Balzac, et que les formes produites notamment par un Balzac sont sans doute en écho ou en relation avec la pratique du journalisme de Balzac. Par exemple, l'écrivain journaliste est celui qui, à partir d'une multitude de petits articles déjà produits dans la presse, peut proposer un monde en patchwork, un monde rhapsodique. Donc il essaye de proposer des liens. Alors, il, pour l'époque contemporaine, il n'en propose pas. Voilà, il dit, ce serait à imaginer comment les conditions économiques peuvent non pas seulement être un déterminisme sur la vie courante, mais aussi être une sollicitation de formes, de thèmes, de manières d'écrire, ne serait-ce que dans les rythmes d'écriture. Est-ce que toi, de ton côté, tu verrais des lieux de croisement entre une vie faite de fiction radiophonique auparavant, de résidence, d'intervention, de lecture, mais aussi de demande de débat à l'université, dans les festivals, et des modes d'écriture? Alors, moi, j'aurais deux pistes, hein, si toi, tu n'y vois pas, si la question te semble trop abstraite. Deux pistes très, très brèves. D'abord, quand on regarde ton écriture, ce qui est évident dès ton premier récit, c'est que c'est une écriture essentiellement coupée. Une écriture de la séquence, une écriture de la notule, de la variation, de l'exercice. C'est-à-dire une écriture dont on peut voir qu'elle peut peut-être s'accommoder d'un temps qui est un temps partagé entre différentes activités. Donc ça serait peut-être première piste. Deuxième piste, c'est que, on a eu l'occasion de le dire, hein, cette visibilité de l'écrivain contemporain, c'est aussi une spectacularisation de l'écrivain contemporain. Et il me semble que cette spectacularisation de l'écrivain contemporain, elle est prise en charge à l'intérieur de ton œuvre par le souci du faux-semblant, du baroque, de la théâtralité de nos existences. C'est-à-dire que peut-être que par un jeu de mise en abîme, cette situation-là, qui est aussi la nôtre en ce moment-là, d'être en représentation, tu l'intègres à l'intérieur même de tes fictions.
Merci de m'avoir donné des pistes, parce que j'étais peut-être, c'est peut-être plus difficile d'en trouver soi-même pour ce qui concerne son propre travail, un lien entre, si j'ai bien compris, des exigences économiques et puis la forme que peut prendre son écriture. Je pense que je suis assez peut-être mal placé pour le voir, et surtout aussi mal placé pour en décider, en tout cas au moment de l'écriture. Parce que, pour prendre un exemple, reprendre l'exemple d'un livre qui s'appelait « Sur l'assassin entre le spectre », qui est assez court, qui pour le coup n'est pas fragmenté et qui a été écrit pour une oralité, je le supposais peut-être plus abordable, plus simple, et je me suis dit qu'il aurait peut-être plus d'écho. Et en fait, quand on se dit ça, évidemment, d'abord, ce sont des mauvaises réflexions. Il ne faut jamais penser ça. Il ne faut jamais s'attendre à telle réception pour un livre. Et d'ailleurs, ça n'a pas du tout été le cas pour ce bouquin. Et quand, 2 ans plus tard, j'ai publié Fragments de Lichtenberg, je me suis au contraire autorisé à faire exactement ce que je voulais, c'est-à-dire un gros livre illisible ou presque invendable, avec des notes en bas de page, des notes marginales, des choses comme ça. Un plaisir presque uniquement égoïste de faire ce que je voulais faire, et avec cette chance que l'éditeur soit Vertical et Gallimard pour la maquette, par exemple. Les éditeurs ont suivi dans cette espèce de pari qui était peut-être un peu perdu, et paradoxalement, ce livre-là a eu plus d'écoute, en tout cas critique, que précédemment. Donc toutes les règles, toutes les stratégies absurdes, stupides que je pouvais avoir sont évidemment tombent à l'eau, hein. C'est quand on, c'est toujours le coup classique, quand on veut écrire quelque chose pour peut-être pour avoir plus d'écho, ça ne marche pas. Et quand on écrit, on fera quelque chose de peut-être plus sincère à soi-même, l'écoute, même si elle n'est pas grandiose ou si elle n'est pas économiquement un triomphe, en tout cas, est elle-même aussi plus sincère et va de soi aussi. Je ne sais pas si l'écriture fragmentaire est née d'une fragmentation de mon emploi du temps, mais peut-être qu'en tout cas, le fait que, pour des raisons aussi matérielles, pour gagner ma vie, et par plaisir aussi, parce qu'il faudrait vraiment mélanger les deux, j'accepte différentes commandes, donc par exemple un audio guide pour le Centre Pompidou, en ce moment des vidéos pour le Centre Pompidou encore, divers projets d'opéra ou même de cantate pour des musiciens. Alors oui, tout d'un coup, je travaille beaucoup avec des musiciens, c'est peut-être un hasard comme ça, mais tout d'un coup, peut-être un projet en amène un autre, des écritures peut-être de chroniques ou d'articles ou de petites choses comme ça, ou des commandes de texte, de fait fragmente la journée. Là où je vois peut-être une contamination dans les textes, c'est pas tellement dans la fragmentation, mais peut-être dans le fait que les recherches se nourrissent les unes les autres, ou se nourrissent, ou en tout cas se contaminent les unes les autres, et que un travail fait, je sais pas, sur la mort de Balzac par exemple, va me donner une piste pour tel autre projet en cours, alors que je ne l'aurais pas eu si je n'étais pas en train de faire cinq ou six choses à la fois. Parce qu'au bout d'un moment, cette année, j'en faisais 10 à la fois, c'était un petit peu trop aussi, parce que je commençais aussi à me tromper dans les rendez-vous et oublier des coups de fil et à devenir un petit peu schizophrène. Mais là, ça commence à se calmer et voilà, j'arrive au bout de l'année avec moins de choses à faire, mais quand même. Mais je pense que c'est plus intéressant, en tout cas, d'un point de vue de l'écriture, cette espèce de jeu
de circulation,
la recherche, des recherches faites par exemple pour des chroniques pour le Matricule des Anges vont nourrir par hasard, par accident, un travail en cours, et comme le dit Mikhail Chenkouti, que je n'avais pas cité encore jusqu'à présent, je travaille en coproduction avec le hasard, et ça compte, je pense, beaucoup, énormément.